Chapitre 10. Des mots qui valent des actes. Il y eut un silence de stupeur où se prolongeait la phrase inconcevable. Mariscal était ahuri, comme un boxeur qui va s'écrouler à la suite d'un coup au creux de l'estomac. Bréjac, toujours menacé par le revolver de Sauvinou, semblait aussi déconcerté. Et soudain, un rire éclata, rire nerveux, involontaire, mais qui tout de même sonnait gaiement dans l'atmosphère lourde de la pièce. C'était Aurélie que la face déconfite du commissaire jetait dans cet accès d'hilarité vraiment intempestif. Le fait surtout que la phrase comique avait été prononcée à haute voix par celui-là même qui en était l'objet ridicule, lui tirait les larmes des yeux.
Mariscal est une gourde ?
Mariscal la considéra sans dissimuler son inquiétude. Comment pouvait-il advenir que la jeune fille eût une telle crise de joie dans la situation affreuse où elle se trouvait devant lui, pantelante comme elle l'était sous la griffe de l'adversaire ? La situation n'était-elle plus la même ? Devait-il se dire. Qu'est-ce qu'il y a de changé ? Et sans doute faisait-il un rapprochement entre ce rire inopiné et l'attitude étrangement calme de la jeune fille depuis le début du combat. Qu'espérait-elle donc ? Était-il possible qu'au milieu d'événements qui eussent dû la mettre à genoux, elle conservât un point d'appui dont la solidité lui parut inébranlable ? Tout cela se présentait vraiment sous un aspect désagréable et laissait entrevoir un piège habilement tendu. Il y avait péril en la demeure. Mais de quel côté la menace ? Comment même admettre qu'une attaque pût se produire alors qu'il n'avait négligé aucune mesure de précaution ? Il ordonna à Sauvinou :
« Si Bréjac remue, tant pis pour lui. Une balle entre les deux yeux. »
Il alla jusqu'à la porte et l'ouvrit.
« Rien de nouveau en bas, patron ?»
Il se pencha par-dessus la rampe de l'escalier.
« Tony, la bonce, personne n'est entré !»«
Personne, patron, mais il y a donc du grabuge là-haut ?»«
Non, non !»
De plus en plus désemparé, il se retourna vivement vers le cabinet de travail. Bréjac, Sauvinou et la jeune fille n'avaient pas bougé. Seulement il se produisait une chose inouïe, incroyable, inimaginable, fantastique, qui lui coupa les jambes et l'immobilisa dans l'encadrement de la porte. Sauvinou avait entre les lèvres une cigarette non allumée et le contemplait comme quelqu'un qui demande du feu. Vision de cauchemar, en opposition si violente avec la réalité que Mariscal refusa d'abord d'y attacher le sens qu'elle comportait. Sauvinou, par une aberration dont il serait puni, voulait fumer et réclamer du feu, voilà tout. Pourquoi chercher plus loin ? Mais peu à peu, la figure de Sauvinou s'éclaira d'un sourire goguenard, où il y avait tant de malice et de bonhomie impertinente que Mariscal essaya vainement de se donner le change. Sauvinou, le subalterne Sauvinou, devenait insensiblement dans son esprit un être nouveau qui n'était plus un agent et qui, au contraire, passait dans le camp adverse. Sauvinou, c'était... Dans les circonstances ordinaires de sa profession, Mariscal se serait débattu davantage contre l'assaut d'un fait aussi monstrueux. Mais les événements les plus fantasmagoriques lui semblaient naturels lorsqu'il s'agissait de celui qu'il appelait l'homme du rapide. Bien que Mariscal ne voulût pas prononcer, même au fond de lui, la parole d'aveu irrémédiable et se soumettre à une réalité vraiment odieuse, comment se dérober devant l'évidence ? Comment ne pas savoir que Sauvinou, agent remarquable que le ministre lui avait recommandé 8 jours auparavant, n'était autre que le personnage infernal qu'il avait arrêté le matin et qui se trouvait actuellement au dépôt, dans la salle du service anthropométrique. Il sortit une seconde fois, en hurlant.
« Tony ! Tony, la bonce ! Et montez donc, sacrebleu !»
Il appelait, vociférait, se démenait, frappait, se cognait dans la cage de l'escalier comme un bourdon aux vitres d'une fenêtre. Ses hommes le rejoignirent en hâte.
« Sauvinou, savez-vous ce que c'est que Sauvinou ? C'est le type de ce matin, le type d'en face, évadé, déguisé !»
Tony et la bonce semblaient abasourdis. Le patron délirait. Il les poussa dans la pièce, puis s'arma d'un revolver.
« Où les mains, bandit ? Où les mains ? La bonce, vise-le, toi aussi !»
Sans broncher, ayant dressé sur le bureau un petit miroir de poche, le sieur Sauvinou commençait soigneusement à se démaquiller. Il avait même déposé près de lui le Browning dont il menaçait Bréjac quelques minutes plus tôt. Marescal fit un saut en avant, saisit l'arme et recula aussitôt, les deux bras tendus.
« Haut les mains ou je tire ! Entends-tu, gredin ?»
Le gredin ne semblait guère s'émouvoir. Face au Browning braqué à 3 mètres de lui, il arrachait quelques poils follets qui dessinaient des côtelettes sur ses joues ou qui donnaient à ses sourcils une épaisseur insolite.
« Je tire ! Je tire ! Tu entends, canaille ? Je compte jusqu'à 3 et je tire ! 1, 2, 3 !»«
Tu vas faire une bêtise, Rodolphe !» susurra Sauvinou. Rodolphe fit la bêtise. Il avait perdu la tête. Des 2 points, il tira au hasard, sur la cheminée, sur les tableaux, stupidement, comme un assassin que grise l'odeur du sang et qui plante à coups redoublés un poignard dans le cadavre pantelant. Bréjac se courbait sous la rafale. Aurélie ne risqua pas un geste. Puisque son sauveur ne cherchait pas à la protéger, puisqu'il laissait faire, c'est qu'il n'y avait rien à craindre. Sa confiance était si absolue qu'elle souriait presque. Avec son mouchoir enduit d'un peu de gras, Sauvinou enlevait le rouge de sa figure. Raoul apparaissait peu à peu. 6 détonations avaient claqué. De la fumée jaillissait. Glace brisée, éclats de marbre, tableaux crevés. La pièce semblait avoir été prise d'assaut. Marescal, honteux de sa crise de démence, se contint et dit à ses 2 agents
« Attendez sur le palier. Au moindre appel, venez.
Voyons, patron, puisque Sauvinou n'est plus Sauvinou, il vaudrait peut-être mieux emballer le personnage. Il m'a jamais plu à moi, depuis que vous l'avez engagé la semaine dernière. Ça va ? On le cueille à nous 3.
Fais ce que je dis. »
Pour Marescal, la proportion de 3-1 n'était sans doute pas suffisante. Il les refoula et ferma la porte sur eux. Sauvinou achevait sa transformation, retournait son veston, arrangeait le nœud de sa cravate et se levait. Un autre homme apparaissait. Le petit policier malingre et pitoyable de tout à l'heure devenait un gaillard d'aplomb, bien vêtu, élégant et jeune, en qui Marescal retrouvait son persécuteur habituel. « Je vous salue, mademoiselle. Puis-je me présenter ? Baron de Limésy, explorateur, et policier depuis 1 semaine. Vous m'avez reconnu tout de suite, n'est-ce pas ? Oui, je l'ai deviné, en bas dans le vestibule. Surtout, gardez le silence, mais riez encore, mademoiselle. Ah, votre rire tout à l'heure. Comme c'était bon de l'entendre. Et quelle récompense pour moi !
Il salua Bréjac.
« À votre disposition, monsieur. » Puis, se retournant vers Marescal,
Il lui dit gaiement « Bonjour, mon vieux. Ah, toi, par exemple, tu ne m'avais pas reconnu. Encore maintenant, tu te demandes comment j'ai pu prendre la place de Sauvinou. Car tu crois à Sauvinou, Seigneur Tout-Puissant. Dire qu'il y a un homme qui a cru à Sauvinou et que cet homme a un grade de grosse légume dans le monde policier. Mais mon bon Rodolphe, Sauvinou n'a jamais existé. Sauvinou, c'est un mythe. C'est un personnage irréel dont on a vanté les qualités à ton ministre et dont ce ministre t'a imposé la collaboration par l'intermédiaire de sa femme. Et c'est ainsi que, depuis 10 jours, je suis à ton service. C'est-à-dire que je te dirige dans le bon sens, que je t'ai indiqué le logis du baron de Limésy, que je me suis fait arrêter par moi ce matin et que j'ai découvert, là où je l'avais caché, la mirifique bouteille qui proclame cette fondamentale vérité. Marescal est une gourde. On eût cru que le commissaire allait s'élancer et prendre Raoul à la gorge. Mais il se maîtrisa. Et Raoul repartit de ce ton de badinage qui maintenait Aurélie en sécurité et qui cinglait Marescal comme une cravache. T'as pas l'air dans ton assiette, Rodolphe. Qu'est-ce qui te chatouille? Ça t'embête que je sois ici et non dans un cachot? Et tu te demandes comment j'ai pu à la fois aller en prison comme Limésy et t'accompagner comme Sauvinou? Enfant, va. Détective à la manque. Mais mon vieux Rodolphe, c'est d'une simplicité. L'invasion de mon domicile ayant été préparée par moi, j'ai substitué au baron de Limésy un quidam grassement payé, ayant avec le baron la plus vague ressemblance, et auquel j'ai donné comme consigne d'accepter toutes les mésaventures qui pourraient lui arriver aujourd'hui. Conduit par ma vieille servante, tu as foncé comme un taureau sur le quidam, auquel moi, Sauvinou, j'enveloppais tout de suite la tête d'un foulard. Et en route pour le dépôt. Résultat, débarrassé du redoutable Limésy, absolument rassuré, tu es venu arrêter mademoiselle, ce que tu n'aurais pas osé faire si j'avais été libre. Or, il fallait que ce fût fait. Tu entends, Rodolphe? Il le fallait. Il fallait cette petite séance entre nous quatre. Il fallait que toutes choses fussent mises au point pour qu'on n'eût pas à y revenir. Et elles y sont au point, n'est-ce pas? Comme on respire à l'aise. Comme on se sent délivré d'un tas de cauchemars. Comme il est agréable, même pour toi, de penser que d'ici 10 minutes, mademoiselle et moi, nous allons te tirer notre révérence. Malgré ce persiflage horripilant, Marescal avait retrouvé son sang-froid. Il voulait paraître aussi tranquille que son adversaire, et d'un geste négligent, il saisit le téléphone.
« Allô? La préfecture de police, s'il vous plaît. Allô? La préfecture? Donnez-moi Monsieur Philippe. Allô? C'est toi, Philippe? Eh bien... Ah, déjà... On s'est aperçu de l'erreur. Oui, je suis au courant, et plus que tu ne peux croire. Écoute, prends 2 cyclistes avec toi, des bougres, et vivement, ici, chez Bréjac. Tu sonneras. Compris, hein? Pas une seconde à perdre.
Il raccrocha et observa Raoul.
Tu t'es découvert un peu tôt, mon petit.
Marescal se moquait à son tour, visiblement satisfait de sa nouvelle attitude.
« L'attaque est manquée, et tu connais la riposte. Sur le palier, la Bonce et Tony. Ici, Marescal avec Bréjac, lequel, au fond, n'a rien à gagner avec toi. Voilà pour le premier choc, si tu avais la fantaisie de délivrer Aurélie. Et puis, dans 20 minutes, 3 spécialistes de la préfecture. » Ça te suffit?
Raoul s'occupait gravement à planter des allumettes dans une rainure de la table. Il en planta 7 à la queue leu-leu,
et une toute seule, à l'écart.
Bigre, 7-1, c'est un peu maigre. Qu'est-ce que vous allez devenir ?
Il avança la main timidement vers le téléphone. Tu permets ? Mariscal le laissa faire, tout en le surveillant. Raoul, à son tour, saisit le cornet. « Allô ? Le numéro Élysée 2223, mademoiselle. Allô ? Ah, c'est le président de la République. Monsieur le président, envoyez d'urgence à monsieur Mariscal un bataillon de chasseurs à pied. »
Furieux, Mariscal lui arracha le téléphone. « Assez de bêtises, hein ? Je suppose que si tu es venu ici, ce n'est pas pour faire des blagues. Quel est ton but ? Que veux-tu ? »
Raoul eut un geste désolé.
« Tu ne comprends pas la plaisanterie. C'est pourtant l'occasion ou jamais de rigoler un brin. Parle donc !»
Aurélie le supplia.
« Je vous en prie.
Oh non, vous, mademoiselle, vous avez peur des bougres de la préfecture et vous voulez qu'on leur brûle la politesse. Non, vous avez raison. Parlons. » Sa voix se faisait plus sérieuse.
Parlons, puisque tu y tiens, Mariscal. Aussi bien, parler, c'est agir. Et rien ne vaut la réalité solide de certaines paroles.
Si je suis le maître de la situation, je le suis pour des raisons encore secrètes, mais qu'il me faut exposer si je veux donner à ma victoire des bases inébranlables et te convaincre.
De quoi ?
De l'innocence absolue de mademoiselle.
Oh ! Elle n'a pas tué.
Non.
Et toi non plus, peut-être ?
Moi non plus.
Qui donc a tué ?
D'autres que nous.
Mensonge !
Vérité. D'un bout à l'autre de cette histoire, Mariscal, tu t'es trompé. Je te répète ce que je t'ai dit à Monte-Carlo. C'est à peine si je connais mademoiselle. Quand je l'ai sauvée en gare de Beaucourt, je ne l'avais aperçue qu'une fois, l'après-midi, au thé du boulevard Haussmann. C'est à Sainte-Marie seulement que nous avons eu, elle et moi, quelques entrevues. Or, au cours de ces entrevues, elle a toujours évité de faire allusion au crime du rapide. Et je ne l'ai jamais interrogée. La vérité s'est établie en dehors d'elle, grâce à mes efforts acharnés, et grâce surtout à ma conviction instinctive, et cependant solide comme un raisonnement, qu'avec son pur visage, on n'est pas une criminelle. Mariscal haussa les épaules, mais ne protesta point. Malgré tout, il était curieux de connaître comment l'étrange personnage pouvait interpréter les événements. Il consulta sa montre et sourit. Philippe et les bougres de la préfecture approchaient. Bréjac écoutait sans comprendre et regardait Raoul. Aurélie, anxieuse soudain, ne le quittait pas des yeux. Il commença, employant à son insu les termes mêmes dont Mariscal s'était servi. Donc, le 26 avril dernier, la voiture numéro 5 du rapide de Marseille n'était occupée que par 4 personnes. Une Anglaise, Miss Bakerfield. Mais il s'interrompit brusquement, réfléchit durant quelques secondes et repartit d'un ton résolu. Non, ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder. Il faut remonter plus haut, à la source même des faits et dérouler toute l'histoire, ce qu'on pourrait appeler les deux époques de l'histoire. J'en ignore certains détails, mais ce que je sais et ce que l'on peut supposer en toute certitude suffit pour que tout soit clair et pour que tout s'enchaîne. Il y a environ 18 ans, je répète le chiffre, Mariscal, 18 ans, c'est-à-dire la première époque de l'histoire. Donc, il y a 18 ans, à Cherbourg, 4 jeunes gens se rencontraient au café de façon assez régulière. Un nommé Bréjac, secrétaire au commissariat maritime, un nommé Jacques Ancivel, un nommé Loubeau et un sieur Jodot. Relations superficielles qui ne durèrent pas, les trois derniers ayant eu maille à partir avec la justice, et le poste administratif du premier, c'est-à-dire de Bréjac, ne lui permettant pas de continuer de telles fréquentations. D'ailleurs, Bréjac se maria et vint habiter Paris. Il avait épousé une veuve, mère d'une petite fille, appelée Aurélie d'Asteux. Le père de sa femme, Étienne d'Asteux, était un vieil original de province, inventeur, chercheur toujours aux aguets, et qui plusieurs fois avait failli conquérir la grande fortune ou découvrir le grand secret qui vous la donne. Or, quelque temps avant le second mariage de sa fille avec Bréjac, un de ses secrets miraculeux, il sembla l'avoir découvert. Il le prétend du moins dans des lettres écrites à sa fille, en dehors de Bréjac, et pour le lui prouver, il l'a fait venir un jour avec la petite Aurélie. Voyage clandestin dont, malheureusement, Bréjac eut connaissance. Non pas plus tard, comme le croit mademoiselle, mais presque aussitôt. Bréjac alors interroge sa femme. Tout en se taisant sur l'essentiel, comme elle l'a juré à son père, et tout en refusant de révéler l'endroit visité, elle fait certains aveux qui laissent croire à Bréjac qu'Étienne d'Asteux a enfoui quelque part un trésor. Où ? Et pourquoi n'en pas jouir dès maintenant ? L'existence du ménage devient pénible. Bréjac s'irrite de jour en jour, importune Étienne d'Asteux, interroge l'enfant qui ne répond pas, persécute sa femme, la menace, bref, vit dans un état d'agitation croissante. Or, coup sur coup, deux événements mettent le comble à son exaspération. Sa femme meurt d'une pleurésie, et il apprend que son beau-père d'Asteux, atteint de maladies graves, est condamné. Pour Bréjac, c'est l'épouvante. Que deviendra le secret si Étienne d'Asteux ne parle pas ? Que deviendra le trésor si Étienne d'Asteux le lègue à sa petite-fille Aurélie comme cadeau de majorité ? L'expression se trouve dans une des lettres. Alors quoi ? Bréjac n'aurait rien ? Toutes ces richesses qu'il présume fabuleuses passeraient à côté de lui. Il faut savoir, à tout prix, par n'importe quel moyen. Ce moyen, un hasard funeste le lui apporte. Chargé d'une affaire où il poursuit les auteurs d'un vol, il met la main sur le trio de ses anciens camarades de Cherbourg, Jodot, Loubeau et Ancivel. La tentation est grande pour Bréjac. Il y succombe et parle. Aussitôt, le marché est conclu. Pour les trois chenapans, ce sera la liberté immédiate. Ils fileront vers le village provençal où agonise le vieillard et lui arracheront de gré ou de force les indications nécessaires. Complot manqué. Le vieillard, assailli en pleine nuit par les trois forbans, sommé de répondre, brutalisé, meurt sans un mot. Les trois meurtriers s'enfuient. Bréjac a sur la conscience un crime dont il n'a tiré aucun bénéfice. Raoul de Limésy fit une pause et observa Bréjac. Celui-ci se taisait. Refusait-il de protester contre des accusations invraisemblables ? Avouait-il ? On eût dit que tout cela lui était indifférent et que l'évocation du passé, si terrible qu'elle fût, ne pouvait accroître sa détresse présente. Aurélie avait écouté, sa figure entre les mains, et sans rien manifester non plus de ses impressions. Mais Mariscal reprenait peu à peu son aplomb, étonné certainement que Limésy révélât devant lui des faits aussi graves, et lui livra, pieds et poings liés, son vieil ennemi Bréjac. Et de nouveau il consulta sa montre. Raoul poursuivit. Donc, crime inutile, mais dont les conséquences se feront durement sentir, bien que la justice n'en ait jamais rien su. D'abord, un des complices, Jacques Ancivel, effrayé, s'embarque pour l'Amérique. Avant de partir, il confie tout à sa femme. Celle-ci se présente chez Bréjac et l'oblige, sous peine de dénonciation immédiate, à signer un papier par lequel il revendique toute la responsabilité du crime commis contre Étienne Dasteux et innocente les trois coupables. Bréjac a peur et stupidement signe. Remise à Jodot, le document est enfermé par lui et par Lobo dans une bouteille qu'ils ont trouvée sous le traversin d'Étienne Dasteux et qu'ils conservent à tout hasard. Dès lors, ils tiennent Bréjac et peuvent le faire chanter quand ils voudront. Ils le tiennent, mais ce sont des gaillards intelligents et qui préfèrent, plutôt que de s'épuiser en menu chantage, laisser Bréjac gagner ses grades dans l'administration. Au fond, ils n'ont qu'une idée. La découverte de ce trésor dont Bréjac a eu l'imprudence de leur parler. Or, Bréjac ne sait encore rien. Personne ne sait rien. Personne. Sauf cette petite fille qui a vu le paysage et qui, dans le mystère de son âme, garde obstinément la consigne du silence. Donc, il faut attendre et veiller. Quand elle sortira du couvent où Bréjac l'a enfermée, on agira. Or, elle revient du couvent. Et le lendemain même de son arrivée, il y a 2 ans, Bréjac reçoit un billet où Jodot et Lobo lui annoncent qu'ils sont entièrement à sa disposition pour la recherche du trésor. Qu'ils fassent parler la petite et qu'ils les mettent au courant. Sans quoi? Pour Bréjac, c'est un coup de tonnerre. Après 12 ans, il espérait bien que l'affaire était enterrée définitivement. Au fond, il ne s'y intéresse plus. Elle lui rappelle un crime dont il a horreur et une époque dont il ne se souvient qu'avec angoisse. Et voilà que toutes ces infamies sortent des ténèbres. Voilà que les camarades d'autrefois surgissent. Jodot le relance jusqu'ici. On le harcèle. Que faire? La question posée est une de celles qui ne se discutent même pas. Qu'il le veuille ou non, il faut obéir. C'est-à-dire tourmenter sa belle-fille et la contraindre à parler. Il s'y décide, poussé lui aussi d'ailleurs par un besoin de savoir et de s'enrichir qui l'envahit de nouveau. Dès lors, pas un jour ne se passe sans qu'il y ait interrogatoire, dispute et menace. La malheureuse est traquée dans sa pensée et dans ses souvenirs. À cette porte close derrière laquelle, tout enfant, elle a enfermé un petit groupe débile d'images et d'impressions, on frappe à coups redoublés. Elle voudrait vivre. On ne lui permet pas. Elle voudrait s'amuser. Elle s'amuse même parfois. Fréquente quelques amis, joue la comédie, chante. Mais au retour, c'est le martyr de chaque minute. Un martyr auquel s'ajoute quelque chose de vraiment odieux et que j'ose à peine évoquer. L'amour de Bréjac. N'en parlons pas. Là-dessus, tu en sais autant que moi, Mariscal, puisque dès le moment où tu as vu Aurélie Dasteux, entre Bréjac et toi, ce fut la haine féroce de 2 rivaux. C'est ainsi que peu à peu, la fuite apparaît à la victime comme la seule issue possible. Elle y est encouragée par un personnage que Bréjac supporte malgré lui, Guillaume, le fils du dernier camarade de Cherbourg. La veuve Ancivelle le tenait en réserve, celui-là. Il joue sa partie, dans l'ombre jusqu'ici, très habilement, sans éveiller la méfiance. Guidé par sa mère et sachant qu'Aurélie Dasteux, le jour où elle aimera, aura toute latitude pour confier son secret au fiancé choisi, il rêve de se faire aimer. Il propose son assistance. Il conduira la jeune fille dans le Midi où, précisément, dit-il, ses occupations l'appellent. Et le 26 avril arrive. Note bien, Mariscal, la situation des acteurs du drame à cette date et comment les choses se présentent. Tout d'abord, mademoiselle, qui fuit sa prison. Heureuse de cette liberté prochaine, elle a consenti, pour le dernier jour, à prendre le thé avec son beau-père dans une pâtisserie du boulevard Haussmann. Elle t'y rencontre par hasard. Scandale ! Bréjac la ramène chez lui. Elle s'échappe et rejoint à la gare Guillaume Ancivel. Guillaume, en cette occasion, poursuit deux affaires. Il séduira Aurélie, mais en même temps, il effectuera un cambriolage à Nice, sous la direction de la fameuse Miss Bakerfield, à la bande de laquelle il est affilié. Et c'est ainsi que l'infortunée anglaise se trouve prise dans un drame où elle ne jouait, elle, aucune espèce de rôle. Enfin, nous avons Jodo et les deux frères Lobo. Ces trois-là ont agi si adroitement que Guillaume et sa mère ignorent qu'ils ont réapparu et qu'on est en compétition avec eux. Mais les trois bandits ont suivi toutes les manœuvres de Guillaume. Ils savent tout ce qui se fait et se projette dans la maison. Et ils sont là, le 26 avril. Leur plan est prêt. Ils enlèveront Aurélie et l'obligeront, de quelque manière que ce soit, à parler. C'est clair, n'est-ce pas? Et maintenant, voici la distribution des places occupées. Voiture numéro 5, en queue, Miss Bakerfield et le baron de Limésie. En tête, Aurélie et Guillaume Ancivel. Tu comprends bien, n'est-ce pas, Mariscal? En tête de la voiture, Aurélie et Guillaume, et non pas les deux frères Lobo, comme on l'a cru jusqu'ici. Les deux frères ainsi que Jodo sont ailleurs. Ils sont dans la voiture numéro 4, dans la tienne, Mariscal, bien dissimulée sous le voile tiré de la lampe. Comprends-tu?
Oui.
Pas malheureux. Et le train file. 2 heures se passent. Station de La Roche. On repart. C'est le moment. Les trois hommes de la voiture 4, c'est-à-dire Jodo et les frères Lobo, sortent de leur compartiment obscur. Ils sont masqués, vêtus de blouses grises et coiffés de casquettes. Ils pénètrent dans la voiture 5. Tout de suite, à gauche, deux silhouettes endormies, un monsieur et une dame dont on devine les cheveux blonds. Jodo et l'aîné des frères se précipitent, tandis que l'autre fait le guet. Le baron est assommé et ficelé. L'anglaise se défend. Jodo la saisit à la gorge et s'aperçoit seulement alors de l'erreur commise. Ce n'est pas Aurélie, mais une autre femme aux cheveux du même blond doré. À cet instant, le jeune frère revient et emmène les deux complices tout au bout du couloir où se trouvent réellement Guillaume et Aurélie. Mais là, tout change. Guillaume a entendu du bruit. Il se tient sur ses gardes. Il a son revolver et l'issue du combat est immédiate. 2 coups de feu. Les deux frères tombent et Jodo s'enfuit. Nous sommes bien d'accord, n'est-ce pas, Mariscal? Ton erreur, mon erreur au début, l'erreur de la magistrature, l'erreur de tout le monde, c'est qu'on a jugé les faits d'après les apparences. Et d'après cette règle, fort logique d'ailleurs, quand il y a crime, ce sont les morts qui sont les victimes et les fugitifs qui sont les criminels. On n'a pas pensé que l'inverse peut se produire, que les agresseurs peuvent être tués et que les assaillis, sains et saufs, peuvent s'enfuir. Et comment, Guillaume, n'y songerait-il pas aussitôt à la fuite? Si Guillaume attend, c'est la débâcle. Guillaume, le cambrioleur, n'admet pas que la justice mette le nez dans ses affaires. À la moindre enquête, les dessous de son existence équivoque surgiront en pleine clarté. Va-t-il se résigner? Ce serait trop bête, alors que le remède est à portée de sa main. Il n'hésite pas, bouscule sa compagne, lui montre le scandale de l'aventure. Scandale pour elle, scandale pour Bréjac. Inerte, le cerveau en désordre, épouvantée par ce qu'elle a vu et par la présence de ces deux cadavres, elle se laisse faire. Guillaume lui met de force la blouse et la cagoule du plus jeune frère. Lui-même s'affuble, l'entraîne, emporte les valises pour ne rien laisser derrière lui. Et ils courent tous deux le long du couloir, se heurtent au contrôleur et sautent du train. Une heure plus tard, après une effroyable poursuite à travers les bois, Aurélie était arrêtée, emprisonnée, jetée en face de son implacable ennemi, Mariscal, et perdue. Seulement, coup de théâtre, j'entre en scène. Rien, ni la gravité des circonstances, ni l'attitude douloureuse de la jeune fille qui pleurait au souvenir de la nuit maudite, rien n'eût empêché Raoul de faire le geste du monsieur qui entre en scène. Il se leva, poussa jusqu'à la porte et y revint dignement s'asseoir avec toute l'assurance d'un acteur dont l'intervention va produire un effet foudroyant. Donc, « j'entre en scène », répéta-t-il en souriant d'un sourire satisfait. « Il était temps. Je suis sûr que toi aussi, Mariscal, tu te réjouis d'apercevoir, au milieu de cette tourbe de fripouilles et d'imbéciles, un honnête homme qui se pose tout de suite, avant même de rien savoir, et simplement parce que mademoiselle a de beaux yeux verts, en défenseur de l'innocence persécutée. » Enfin, voici une volonté ferme, un regard clairvoyant, des mains secourables, un cœur généreux. C'est le baron de Limésie. Dès qu'il est là, tout s'arrange. Les événements se conduisent comme de petits enfants sages, et le drame s'achève dans le rire et dans la bonne humeur. Seconde petite promenade. Puis il se pencha sur la jeune fille. « Pourquoi pleurez-vous, Aurélie? Puisque toutes les vilaines choses sont terminées, et puisque Mariscal lui-même s'incline devant une innocence qu'il reconnaît. Ne pleurez pas, Aurélie. J'entre toujours en scène à la minute décisive. C'est une habitude, et je ne manque jamais mon entrée. Vous l'avez bien vu, cette nuit-là. Mariscal vous enferme, je vous sauve. Deux jours après, à Nice, c'est Jodo. Je vous sauve. À Monte-Carlo, à Sainte-Marie, c'est encore Mariscal, et je vous sauve. Et tout à l'heure, n'étais-je pas là? Alors que craignez-vous? Tout est fini, et nous n'avons plus qu'à nous en aller tout tranquillement, avant que les deux bougres n'arrivent et que les chasseurs à pied ne cernent la maison. N'est-ce pas, Rodolphe? Tu n'y mets aucun obstacle. Et mademoiselle est libre. N'est-ce pas, tu es ravi de ce dénouement qui satisfait ton esprit de justice et de courtoisie? Vous venez, Aurélie? Elle vint, timidement, sentant bien que la bataille n'était pas gagnée. De fait, au seuil de la porte, Mariscal se dressa, impitoyable. Bréjac le rejoignit. Les deux hommes faisaient cause commune contre le rival qui triomphait.